Ah, s'il est vrai que mes pieds ont laissé 1000 faux pas, emprunt sur la poussière, sur mon sentier, sur l'obstacle dressé, a trop souvent ralenti ma carrière, combien de fois, au lieu de me punir, tes tendres soins, ta pitié qui déborde, n'ont dans mon cœur laissé qu'un souvenir, le souvenir de ta miséricorde. Nous venons donc chanter de se chanter ce chemin que nous devons traverser dans le désert. Nous avons dit que le Seigneur est la lumière qui nous trace. Mais combien de fois il faut confesser ce que ce cantique exprime. J'aimerais lire un passage dans l'Ancien Testament d'un homme qui a lutté avec Dieu, du livre de Genèse, le chapitre 32e. Genèse 32. Verset 24. Et Jacob resta seul, et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et lorsqu'il vit qu'il ne prévalait pas sur lui, il toucha l'emboîture de sa hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob fut luxée, comme il luttait avec lui. Et il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et il dit, « Jacob, je ne te laisserai point aller sans que tu m'aies béni. » Et il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il dit, « Jacob. » Et il dit, « Ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as prévalu. » Et Jacob demanda et dit, « Je te prie, déclare-moi ton nom. » Et il dit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Et Jacob appela le nom du lieu Peniel, « Car j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été délivrée. » Et le soleil se levait sur lui, comme il passait Peniel, et il y boitait sur sa cuisse. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les fils d'Israël ne mangent point du tendon qui est sur l'emboîture de la hanche, car il toucha l'emboîture de la hanche de Jacob sur le tendon. Voilà un homme qui lutta avec Dieu. Ou est-ce qu'il faut peut-être dire, voilà Dieu qui lutta avec un homme? Est-ce que Jacob a lutté pour obtenir une bénédiction de l'Éternel, ou est-ce que c'est l'Éternel qui voulait bénir Jacob, mais Jacob n'a pas voulu? Qui d'entre nous ne veut pas être béni? Oui, nous aimerions bien tous de recevoir des bénédictions, mais nous oublions si souvent qu'avec les bénédictions, elles liées aussi la responsabilité. J'aimerais penser avec vous quelques instants sur l'affranchissement. Un exemple de l'affranchissement, très pratique et très touchant. L'affranchissement, ça veut dire délivrance. Jacob, ici, dans une impasse, il dit, le verset 31, « Et mon âme a été délivrée. » Délivrée. Nous ne parlons pas de la délivrance du jugement de nos péchés. Le Seigneur Jésus, il est mort pour nous, ceux qui ont reçu Jésus-Christ sur la croix du calvaire. Il est mort pour nous. Donc, il nous a délivrés du jugement que nous avons mérité. Mais je parle encore d'une vérité, une autre vérité, qui nous délivre de nous-mêmes, de notre vieille nature. Romains 6, 7 et 8 nous parlent de l'affranchissement. J'ai un verset qui me vient. C'est dans le chapitre 6e des Romains et le verset 22e où nous lisons « Mais maintenant, ayant été affranchis, maintenant ayant été affranchis du péché et asservis à Dieu, vous avez votre fruit dans la sainteté et pour la fin, la vie éternelle. » Deux choses, affranchis et asservi. Nous avons été donc libérés, affranchis, mis en dehors des exigences de la loi, du péché et de la mort. Par quoi? Par notre Rédempteur, celui qui nous a délivrés par sa mort, et on le réalise donc par la foi aussi. Cette même foi par laquelle nous avons reçu le pardon de nos péchés, et par cette même foi par laquelle nous avons réalisé la délivrance du jugement du péché, nous avons aussi été délivrés de la puissance du péché. Ainsi libérés, nous sommes devenus des serviteurs du Seigneur Jésus, asservis à lui. Est-ce que nous connaissons cela dans notre vie? Donc, Jacob a lutté avec Dieu. Mais c'est un peu à la fin, au moitié de son histoire. J'aimerais lire encore quelques passages qui nous montrent l'arrière-plan de cet homme Jacob. Qui était donc ce Jacob? Nous lisons quelques versets encore dans le chapitre 28e. 28, le verset 10. Et Jacob sortit de Beersheba et s'en alla à Charan, et il se rencontra à un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Et il prit des pierres du lieu et s'en fit un chevet, et se coucha en ce lieu-là, et il songea. Et voici une échelle dressée sur la terre, et son sommet touchait aux cieux. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle, et voici l'Éternel se tenait sur elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, et ta semence sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, et au Nord, et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta semence. Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans cette terre-ci, car je ne t'abandonnerai pas, jusqu'à ce que j'ai fait ce que je t'ai dit. » Et Jacob se réveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement l'Éternel est dans ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Et il eut peur, et il dit, « Que ce lieu-ci est terrible, ce n'est autre chose que la maison de Dieu, et c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin et prit la pierre dont il avait fait son chevet, et la dressa en stèle, et versa de l'huile sur son sommet, et il appela le nom de ce lieu-là Bethel. Mais premièrement, le nom de la ville était Luz. Et Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde dans ce chemin où je marche, et qu'il me donne du pain à manger, un vêtement pour me vêtir, et que je retourne en paix à la maison de mon père, l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée en stèle sera la maison de Dieu. Et de tout ce que tu me donneras, je t'en donnerai la dîme. » Jacob, fugitif, il a volé, il a menti. Il a menti à son père dans le chapitre 27e, quand son père avait dit, « Es-tu vraiment, verset 24, es-tu vraiment mon fils Ésaü ?» Et il dit, « Je le suis, menteur. » Il a volé, verset 36, et il dit, « N'est-ce pas qu'on a appelé son nom Jacob ?» C'est Ésaü qui parle. « Et il m'a supplanté ces deux fois. » Et il a pris mon droit d'aînesse, et voici maintenant, il a pris ma bénédiction. Voleur. Jacob, comme homme naturel, n'est pas sympathique. Un homme qui calculait. Un homme rusé. Mais en dépit de tout cela, il y a quelque chose qui le distingue d'Ésaü. Ésaü est donc nommé profane. Il ne regardait le droit d'aînesse comme quelque chose de sacré. Quelque chose d'un privilège de l'Éternel. Non, non. Pour lui, les choses matériel, c'était ce qu'on comptait pour lui, l'Ésaü. Mais Jacob, en dépit de toutes ses faiblesses, il discernait quand même dans ce droit d'ânesse quelque chose de précieux. Et c'est en effet très précieux. Il a voulu donc. Mais ce qui caractérise toujours Jacob, il marche devant Dieu. Il ne peut pas s'attendre à l'Éternel. Il n'a pas de patience. Il a une très forte volonté, une très forte personnalité. Il veut y arriver lui-même par ses propres puissances. C'est ainsi qu'il a menti, qu'il a volé. Propre puissance, propre volonté. Cela caractérise Jacob. Alors, il s'est enfui de la maison de son père parce que Ésaü voulait le tuer. Et là, tout seul, il est arrivé à Beersheba. Et c'est la nuit. C'est frappant que dans notre chapitre 32e, encore une fois, c'était la nuit. La nuit dans l'âme de Jacob. La nuit. Et c'est là, dans ce lieu, qu'il s'est couché. Ce lieu, je suis sûr que c'est le lieu que l'Éternel a choisi pour Jacob, pour se révéler à Jacob, l'arrêter pour un instant, lui parler. Il y a aussi dans notre vie des lieux où le Seigneur nous parle très personnellement pour mettre son doigt sur quelques faiblesses dans ma vie, dans votre vie, dans nos vies, pour nous parler, pour nous montrer qu'est-ce qu'il a pour nous, son propos pour nous, son but. Et le but, le propos de l'Éternel pour Jacob était Bethel, Bethel. Bethel, Beth, maison, elle, Dieu. La maison de Dieu. Là où on trouve Dieu. La communion intime. Pour nous, l'identification avec Jésus-Christ. Une entière identification avec lui. Trouver, comme nous venons de chanter, son tout, Jésus-Christ, Bethel. Et c'est là donc, tout seul, il songea. Il voit une échelle, liaison entre le ciel et la terre. Et on trouve un merveilleux type ici de la personne du Seigneur Jésus-Christ qui est descendu du ciel. Et là, nous voyons que l'Éternel se manifeste, je suis l'Éternel. Verset 13. Et voilà déjà une première fois que l'Éternel montre sa miséricorde à Jacob. Il sait très bien que la nature de Jacob est tordue. Nous allons voir plus tard que ce Dieu de miséricorde, il a voulu bénir Jacob dès le début. Mais Jacob l'échappait tout le temps. Il ne voulait pas rester là. Il ne voulait pas suivre dans le chemin. Il ne voulait pas, pour ainsi dire, que le Seigneur lui trace le chemin. Il voulait aller seul, seul, dans sa propre volonté. Mais l'Éternel l'a donc béni. Il avait dit que « Je ne t'abandonnerai jamais. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta semence. » Finalement, c'est le Seigneur Jésus, descendant. Et alors, Jacob, effrayé, il dit « Ce lieu est terrible. » Oui. Et quand on pense que toute bénédiction découle de la croix du calvaire, nous nous sommes souvenus ce matin de la mort de notre Seigneur Jésus. Ce lieu du calvaire était terrible. Un lieu de jugement. Jésus-Christ jugé en ma place. C'est de cela, de cette croix du calvaire, que découle toute bénédiction pour chacun, chacune de nous. C'est un lieu terrible. En effet, oui, c'est la porte des cieux. C'est par cette croix du calvaire que le ciel s'ouvre pour nous. Par la foi en Jésus-Christ, victime, le sauveur, celui qui a porté toutes nos iniquités, le ciel s'ouvre pour nous. Bethel, c'est là qu'on trouve Dieu. Donc, voilà un peu un arrière-plan de ce Jacob. Nous voyons dans la vie de Jacob les voies éducatrices de Dieu d'une manière extraordinaire. Que c'est un Dieu qui persévère. Notre Dieu persévère avec vous et moi. Sans se laisser décourager. Dieu n'est pas jamais découragé. Il continue même avec un caractère peu aimable que Jacob. Dieu a son but, Dieu a son propos. Peut-être, en tout cas je dois le confesser, je me trouve dans le caractère de Jacob. Peut-être nous allons découvrir aussi, dans ces quelques instants, quelques caractères de Jacob se trouvent aussi en vous, en moi. Il y avait donc très peu de mérite en Jacob pour qu'il soit béni. Mais néanmoins, Dieu manifeste un amour prodigieux. Ça ne veut pas dire que Dieu le pardonnait, ses fautes, ou que Dieu l'excusait, ses faux pas, ses péchés. Non. Il y a d'un côté la bonté de Dieu, mais il y a de l'autre côté aussi la sévérité de Dieu. Et Jacob a donc dû apprendre cela dans sa vie. Pendant des longues années, l'Éternel a permis que Jacob suive son propre chemin. Est-ce qu'il y en a ceux ici cet après-midi qui suivent leur propre chemin? Le Seigneur le permet. Pourquoi? Jusqu'à ce que nous arrivions dans cette impasse que nous avons vue dans le chapitre 32e, l'impasse, le désespoir. Maintenant, dans cette impasse, il ne sait pas où tourner. Donc, Jacob poursuit son propre chemin pour apprendre des leçons nécessaires, pour apprendre de se connaître lui, ce qu'il est lui, dans son intérieur. Et c'est une leçon qui est dur à apprendre. Et son égoïsme a été souvent pour lui sa propre verge de châtiment. Son égoïsme, nous le voyons à beaucoup d'instants, son égoïsme. Il ne pense à lui-même. Mais donc, Dieu a persévéré avec Jacob jusqu'à ce qu'il est dans ce coin. Une crise finale. C'est la nuit à Peniel. Et c'est là qu'il va encore une fois de plus rencontrer Dieu. Dieu va lutter avec Jacob. Jacob lutta avec Dieu. Est-ce que nous luttons aussi? Est-ce qu'il y a une lutte dans nos cœurs, dans votre cœur cet après-midi? Vous ne voulez pas accepter ce chemin que le Seigneur a choisi pour vous. Notre propre volonté est dure. Ne veut pas se soumettre. Et on lutte. On lutte. Et le Seigneur permet. Ah, nous voyons la lutte en Romains 7. C'est une lutte terrible. On aime le Seigneur. On est sauvé. On a le pardon. On aime lui plaire, mais on n'a pas encore découvert qu'on n'a pas de puissance. Ou peut-être on l'a découvert. On a essayé de faire le mieux et puis c'est toujours abouti à débat, le défait. On a vaincu, on n'est pas vainqueur. Et on pousse ce cri, misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Voilà l'impasse. C'est là où le Seigneur nous veut, chacun, chacune de nous, dans cette impasse, pour réaliser que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais pour Jacob, il n'est pas encore arrivé là. Nous voyons donc trois choses que j'aimerais me remarquer. La sélection divine dans sa vie. Et aussi, deuxièmement, le discernement divin. Ce que Dieu a pu discerner en Jacob. Et finalement aussi, la poursuite persistante de l'Éternel. Trois choses capitales. La sélection divine. Pour nous, Jacob aurait été notre dernier choix, un homme pas sympathique. Mais Dieu commence là, et c'est merveilleux, qu'il n'y a presque pas de promesse. C'est là que Dieu commence. Voilà donc la clé de la sélection de Dieu. Si Dieu choisit ceux qui sont parmi les meilleurs, si Dieu donc choisit seulement les nobles et les brillants, la majorité d'entre nous, nous serons disqualifiés. Non, Dieu cherche Jacob. Dieu veut, pour ainsi dire, transformer une verre dans un prince. Si seulement nous nous acceptons que dans notre nature, nous sommes une verre. Nous ne méritons rien du tout. Que nous sommes, et c'est pas agréable de le dire, mais nous sommes totalement corrompus en nous-mêmes. L'apôtre Paul le dit en Jean 7, je pense à la verset 18, « Je sais qu'en moi, ma chair n'habite aucune chose qui est acceptable devant le Seigneur. » D'arriver là, donc de voir que il n'y a rien qui mérite, rien en nous qui mérite la grâce ou la miséricorde. On l'avait peut-être déjà dit ici dans cette assemblée, que la grâce, ça veut dire que Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Et la miséricorde, ça veut dire que Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. Nous méritons le jugement, mais sa miséricorde nous a sauvés et sa grâce nous a donné le salut. Dieu condescend et c'est merveilleux de se lier à un Jacob par le nom, le Dieu de Jacob. Avant qu'il dit le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Est-ce que Dieu ne va pas faire un compromis qui se lie à un homme, un tel homme comme Jacob? Non. C'est là où nous voyons la miséricorde de Dieu, qu'il s'occupe d'un homme comme Jacob. J'ai aimé Jacob. Il avait dit, j'ai aimé Jacob. Donc, qu'est-ce que Dieu a pu discerner en Jacob? Dieu voyait donc, pour ainsi dire, le potentiel qui était en Jacob. Que Dieu voyait ce qu'il pouvait faire en Jacob. Si seulement Jacob le laissait faire, et le Seigneur a aussi un but pour notre vie. Si seulement nous le laissons faire. Et pour cela, il faut arriver à la fin de soi-même. Il faut arriver à la désespoir de soi-même. Il faut arriver à un abandon total entre les mains du Seigneur Jésus. Cesser à lutter contre la chair parce que on sera toujours défaite. Mais accepter que notre chair, notre vieil homme a été crucifié. Quelque chose que nous ne pouvons jamais faire nous-mêmes. C'est de crucifier notre chair. C'est pour cela que Dieu l'a fait. Quel bonheur. Il a crucifié notre chair. Il y a 2000 ans, quand Jésus-Christ a été crucifié, nous pouvons dire avec l'apôtre Paul, j'ai été crucifié avec lui. Donc, notre Dieu, c'est le Dieu de la disposition difficile. Il y a des gens qui, même parmi les croyants, il y a des dispositions difficiles. Dieu est le Dieu de la disposition difficile, tempérament difficile. Dieu est le Dieu de la personne inadaptée. Et il est le Dieu de la personne, d'une personnalité pervertie. Oui, il ne l'excuse pas. Il juge. Mais néanmoins, il s'occupe avec ceux qui sont inadaptés et pervertis pour les transformer. Le but de Dieu, Romains 8, versets 29 et 30. Qu'est-ce que c'est que le propos de Dieu? De nous transformer dans l'image de son Fils. Je me souviens encore, bien des années en Haute-Égypte, dans l'école de Théma, on avait à côté de l'école un petit atelier où un jeune homme était en train de faire un tapis. Il y avait donc de la laine en couleur. Il y avait aussi un plan dessiné, et chaque jour, j'étais là pour surveiller. Alors, il employait donc un couteau, et il faisait des nœuds, il coupait. Il faisait des nœuds, il coupait. Et peu à peu, chaque jour, on voyait ce tapis qui s'achevait. Et finalement, voilà le tapis. Et je me suis réfléchi, est-ce que c'est pas comme notre vie, comme ça? Dieu a ce plan, voilà le dessin. Dieu a ce plan, nous sommes comme ce tapis, si vous voulez. Alors, il y a des nœuds, et il y a aussi la coupure, ça fait mal. On souffre quand on insiste sur sa propre volonté, et Dieu vient à contraire. Il applique donc la croix du calvaire dans notre vie, ça coupe, ça fait mal. Mais on l'accepte, est-ce qu'on l'accepte? Il n'y a pas la vie que par la mort, la vraie vie. C'est par la mort de Christ, c'est par l'identification avec lui dans sa mort. afin que je le connaisse, lui, et la puissance de sa résurrection, étant rendu conforme à sa mort, oui. Donc, voilà, Dieu voit le potentiel. Dieu voit ce qu'il a pour but dans la vie d'un Jacob, cette personne inadaptée. Il a la solution pour chaque caractère, ici cet après-midi aussi, les caractères difficiles. Il a la solution pour votre personnalité et pour la mienne. Et qu'est-ce que c'est? C'est la croix. Est-ce que nous l'acceptons? Mes chers amis, voilà le secret de l'affranchissement. L'affranchissement, c'est d'être délivré de soi-même. On doit donc arriver à le dégoût de soi-même, à ne pas s'aimer. On s'aime nous-mêmes. Sommes-nous donc prêts à nous abandonner entre les mains du Seigneur Jésus? C'est tout à fait humain que nous voyons toujours le pire dans notre frère, dans notre sœur. Mais Dieu cherche toujours ce qui pourra libérer en nous pour le bien, pour le bien. Et nous allons voir quatre fois que l'Éternel a une rencontre avec Jacob. Et chaque fois, c'est pour lui donner une autre révélation de lui-même, pour le transformer. Oui, oui. À chaque occasion, c'était pour corriger quelque étourderie dans sa vie, quelque faute dans son enfant intransigeant pour arriver à son but. Donc, nous voyons dans ces quatre endroits la poursuite persistante de l'Éternel dans la vie de Jacob. La première fois, c'est dans notre chapitre 28e, le résultat du vol. Jacob se trouve dans cet endroit, craintif, isolé, désolé, et il fait un vœu. Ah, voilà. Il a encore confiance en soi qu'il peut lui-même, donc, achever un vœu. C'est pour cela qu'on avait dit l'autre soir, on ne pense pas que pour un chrétien d'aujourd'hui, il fait des vœux. Si on fait des vœux, on n'a encore rien compris de ce qu'on est dans sa nature. Est-ce que nous pouvons faire un vœu et l'accomplir demain? Mais qui sait que nous aurons encore demain? Est-ce que nous pouvons donc faire un vœu pour l'avenir? Mais qui nous assure que nous avons encore un avenir si le Seigneur nous appelle ce soir? Non, donc, un vœu, ce n'est pas caractéristique pour un chrétien, pour un enfant de Dieu aujourd'hui dans cette époque. Nous avons donc une révélation dans les épîtres de l'apôtre Paul, par la grâce de Dieu, qui nous montre que notre entière confiance doit être dans le Seigneur Jésus et pas en nous-mêmes. Donc, il était déjà fautif. Il marchant toujours chez Jacob, c'est un vrai Moyen-Orient, il marchande. Si tu fais ça, moi je fais ça. Si Dieu donc vient avec moi, si Dieu est avec moi et me garde dans ce chemin où je marche, alors il sera mon Dieu. Non, non, il n'a rien compris de son incapacité, de son néant, de son rien. Mais Dieu va continuer. Si Jacob a oublié ce qu'il a voué à Dieu, l'Éternel n'a pas oublié. L'Éternel n'a pas oublié. Et si la mémoire de Bethel est devenue de plus en plus faible pour un Jacob, peut-être à cause de son affluence, de ses richesses matérielles, et ça, c'est aussi un enseignement pour nous aujourd'hui, que nous vivons dans des pays avec une affluence, un matérialisme, et on peut très facilement oublier le but de Dieu dans nos vies, se laisser prendre par les choses d'extérieur. Donc voilà, il a vu donc dans le chapitre 28e, le but de Dieu, c'était Bethel. C'est là que Dieu veut qu'il soit, qu'il habite. Mais Jacob, il a d'autres plans, il a d'autres pensées que l'Éternel. Et nous voyons donc ici arriver la crise de Bethel, dans le chapitre 32e. Le début de ce chapitre, nous voyons que dans le verset premier, Jacob est de retour en Canaan, et c'est la miséricorde de Dieu qui est toujours avec lui, pas loin de lui du tout. Il y a des anges de Dieu qui viennent à leur rencontre, et Jacob les vit. Et il appela le nom de ce lieu Mahanaïm. Ça veut dire deux armées aux deux camps. Une armée de devant et une armée de derrière. Une armée de derrière pour lui protéger de l'avant et une armée de devant pour lui protéger de Nézaü. Quel soin! Quel tendre soin de l'Éternel! Mais dans les versets 3, 4 et 5, nous voyons qu'il n'a pas encore beaucoup compris. Il est toujours rusé, il complote, il est craintif. Et il dit dans le verset 4, « Vous parlerez ainsi à mon Seigneur Ésaü. » À la fin du verset 5, « Afin que je trouve grâce à tes yeux. » Il est par terre. Si seulement il peut arriver à maintenir sa propre volonté. Il a beaucoup de crainte parce qu'il entend qu'Ésaü vient, dans le verset 6, à sa rencontre. Verset 7, Jacob craignit beaucoup et il fut dans une angoisse. Et finalement, il arrive donc dans le verset 24, la crise de Peniel. Mais Jacob a maintenant à peu près 100 ans. Mais remarquons la méthode de Dieu dans la vie de Jacob. Il a donc placé Jacob avec un homme, Laban, qui était plus dur, plus cupide et encore plus tordu que Jacob lui-même. Alors chaque jour, en regardant Laban, il apprend le dégoût de ce qu'il trouve en lui-même. Dieu emploie encore aujourd'hui cette même méthode aujourd'hui. On dit, oh, c'est seulement, je ne devrais pas être avec cette personne parce qu'elle m'énerve. Si seulement j'étais délivré de cette personne, je pouvais vivre pour le Seigneur Jésus. Si seulement le Seigneur me sauve de cette situation, alors j'aurais plus de liberté de servir le Seigneur Jésus. Et le Seigneur nous laisse dans cette situation. Pourquoi? Pour que nous arrivions donc à nous juger nous-mêmes. Imaginez-vous si le Seigneur aura donc permis qu'un Jacob habite avec un homme gentil et amable. Il n'aurait jamais appris ce qu'il était lui-même. C'est un miroir. Parfois, on prie au Seigneur, humble-moi, fais-moi humble. Seigneur, je veux apprendre l'humilité. Et si on prie cela, et le Seigneur fait nous apprendre ces leçons de l'humilité qui nous humilie devant une personne que nous n'aimons pas, c'est souvent la méthode de Dieu. Quel désastre donc pour un Jacob s'il aurait été avec un homme paisible. Mais non. Dieu a donc arrangé ces circonstances qui se trouvent avec un Laban qui détestait. Et en détestant Laban, il a appris de se détester lui-même. Mais c'est frappant aussi que Dieu ne permet pas à notre Laban, entre parenthèses, de nous toucher, de nous faire du mal. Nous trouvons cela dans le chapitre 31, verset 24. Et Dieu vint vers Laban, l'Araméen, dans un songe, la nuit. Et il dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Voilà la protection de l'Éternel pour Jacob. Il n'a pas permis qu'un Laban fait du mal à Jacob. Et le Seigneur veille aussi sur toi, sur moi, sur vous et moi. Mais nous devons apprendre. Il faut quand même admirer que Jacob a resté si longtemps avec un Laban qui était si difficile, ça nous montre quand même une fortitude de caractère, qu'il a donc accepté sa situation. Accepté sa situation. Parce que nous sommes prêts aussi à accepter la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Peut-être une situation qui nous écrase. Peut-être une situation dans laquelle nous souffrons. Peut-être une situation dans laquelle nous avons commencé à murmurer, à être mécontents. Pourquoi? On n'aura jamais la paix, mes chers frères et sœurs, si on n'accepte pas la situation dans laquelle nous nous trouvons de la part du Seigneur. Il a permis. Peut-être on est arrivé dans cette situation par sa propre volonté, comme Jacob. Pas toujours. Il y a des situations que le Seigneur permet par nos propres fautes, mais pour nous apprendre que nous pouvons trouver en lui toutes nos ressources. C'est comme il veut fortifier notre foi. Sur la terre, nous souffrons, pas toujours pour nos fautes. Nous souffrons parce que nous sommes dans une terre de péché. Nous souffrons aussi quand nous sommes fidèles pour le Seigneur Jésus. Mais Jacob a donc souffert pour ses propres fautes. Alors la nuit de la décision est arrivée. Remarquons que c'est Dieu, l'Éternel, qui a pris l'initiative. C'est Jacob qui est, c'est très frappant et touchant de lire dans le chapitre 32e et le verset 24. Et Jacob resta seul. C'est le Seigneur qui cherche cela, que nous soyons seuls. Personne avec nous maintenant. Personne peut comprendre. Personne peut nous aider là, dans ce lieu. Il faut avoir une rencontre avec le Seigneur, seul avec lui, pour apprendre ce qui est lui. Et là, seul, un homme lutta avec lui, jusqu'à le lever de l'aurore. Nous lisons aussi dans le prophète Osée, chapitre 12e, cette même histoire. Mais peut-être, j'y lirai ce verset. En Osée, chapitre 12, verset 3. L'Éternel a aussi un débat avec Juda et il punira Jacob selon ses voies et il lui rendra selon ses actions. Dans le ventre, il prit son frère par le talon et par sa force, il lutta avec Dieu. Jusqu'ici, nous sommes arrivés à Penuel. Oui, il lutta avec l'ange et prévalut. Il pleura. Comment est-ce qu'il faut donc interpréter cet événement à Penuel? Jacob a résisté. Il a lutté. Et il prévalait dans ce sens, pas par sa puissance, pas par résister. Il n'a pas prévalu par ses pleurs. Il est donc, et c'est Osée qui nous enseigne cela, Jacob est donc arrivé à la fin de soi-même, pour ainsi dire tombé en larmes. Il s'est vu lui-même dans la lumière de l'Éternel. Et par ses pleurs, il prévalait. Et il a cessé à résister l'Éternel. Mais ici, dans cet événement à Penuel, nous voyons qu'il résiste encore. Et c'est l'Éternel qui toucha l'emboîture de sa hanche, verset 25. Et l'Éternel dit à Jacob, « Laisse-moi aller. » Mais c'est Jacob qui s'attache encore de plus à l'Éternel. « Je ne te laisse pas aller avant que tu m'aies béni. » Ah, maintenant il réalise, il est seul, son seul support. C'est l'Éternel. Il s'attache à lui. Oh, mes chers amis, si seulement nous pouvons apprendre cela aussi, finalement, de nous attacher de cœur à notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même. Peut-être il faut y arriver après beaucoup de pleurs et de larmes, avec un brisement de cœur et d'esprit, pour réaliser l'affranchissement d'être tout pour le Seigneur. Et l'Éternel lui dit, verset 27, « Quel est ton nom? Toi, Jacob, tu as menti, tu te souviens dans le chapitre 27e, quand ton père t'a demandé, qui es-tu? Es-tu Ésaü? Quel est ton nom? Il faut revenir. Dieu insiste qu'il revient, Jacob. Il n'a jamais confessé cela. Il doit donc confesser. J'ai menti. J'ai dit à mon père que j'étais Ésaü, mais mon nom est Jacob. Et tout ce que cela implique, Jacob, qui a supplanté. Il doit donc confesser ce qui est en lui-même. Finalement, il a réalisé ce qui est en lui-même, un Jacob. Et dans ce sens-là, nous avons le Jacob en nous-mêmes, nous tous, le vieil homme. Une fois qu'il a confessé cela, verset 28, il dit Jacob. Et l'Éternel dit, ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël, prince, prince. Car tu as lutté avec Dieu et les hommes, et tu as prévalu. Comme nous avons vu, il a prévalu par ses larmes, par ce brisement de cœur. Et Dieu a été miséricordieux. Voilà, voilà la miséricorde de Dieu envers Jacob. Et Jacob a demandé, je te prie, déclare-moi ton nom. Mais non, l'Éternel ne peut pas se révéler à Jacob en Peniel. Dieu peut se révéler à Bethel. Donc, l'Éternel n'a pas pu révéler son nom. Il dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Le Seigneur l'a béni. Et c'est là que Jacob a appelé cet endroit la face de Dieu. Et il loue Dieu, car j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été délivrée. Alors, si on a une fois, donc, vu le secret de l'affranchissement, Si on est donc venu au pied du Seigneur, encore une fois, maintenant pas comme un pécheur dans la repentance, mais maintenant comme un enfant de Dieu qui réalise que sans le Seigneur, nous pouvons rien faire. Si nous avions vu cela et vécu cela, l'affranchissement, est-ce que c'est donc la fin? Est-ce que nous sommes arrivés? Non, mes chers amis. Maintenant, nous avons compris comment il faut vivre chaque jour. Et Romains 6 nous enseigne cela. C'est de verset 13 que nous nous livrons nos membres à Dieu comme des instruments pour la justice. Et c'est une expérience qu'il faut faire chaque jour, de se présenter, de se livrer soi-même, ses instruments, ses mains, littéralement, ses pieds, son corps, son âme, son esprit, se livrer, se présenter chaque moment, chaque jour. On se lève le matin, on se met à genoux, on se présente, on se livre soi-même. Et on maintient cette attitude tout le long de la journée. Voilà la vie de victoire. Voilà la réalisation de l'affranchissement. Mais le Seigneur est miséricordieux. Chapitre 35e. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, habite là, fais-y un autel. Voilà les instructions. Monte, lève, habite. Et finalement, Jacob a compris. Il doit donc, dans le verset 2, il a dit à sa maison, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Est-ce qu'il y en a des dieux étrangers? Qu'est-ce que c'est qu'un idole, un dieu étranger? C'est tout ce qui se place, c'est toute substitut pour le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, dans ma vie. Garde-vous des idoles, dit l'apôtre Jean. Dans son épître, 5e chapitre, gardez-vous des idoles, tout ce qui prend la place dans la vie qui est au Seigneur Jésus. Purifiez-vous, changez vos vêtements. Donc, venir au Seigneur Jésus-Christ et de confesser tout, ce qu'on a caché dans sa vie, ce qu'on a laissé et permis dans sa vie, qui n'était pas selon la volonté du Seigneur. Et je ferai là un autel. Et alors, en route, le verset 5, c'est l'encouragement qu'a donné l'Éternel à Jacob. Ils partirent, la frayeur de Dieu fut sur les villes, et jusqu'à ce qu'il arrive à Luz, c'est Bethel. Dans ce pays, il bâtit donc là un autel, verset 7, et il appela le lieu Bethel. Et c'est là que l'Éternel se révèle. Moi, je suis le Dieu de Bethel. Dieu apparut encore à Jacob, verset 9, à son retour à Paddan Aram, et il dit, ton nom est Jacob, mais ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël. Et Dieu se révèle, je suis le Dieu Tout-Puissant. Chers amis, quel encouragement pour nous tous. Oui, le Seigneur va persévérer. Le Seigneur veut arriver à son but dans chacun de nos vies. C'est à nous de le laisser agir maintenant. Nous avons donc aussi ce Jacob en nous. Il s'occupe de ce Jacob en nous pour arriver avec nous aussi à Bethel, de goûter cette douce communion avec lui. Oh, que le Seigneur nous aide à nous tous de nous livrer à lui. Peut-être cet après-midi, de nouveau, et de continuer de nous livrer à nous chaque jour, et chaque moment pour sa gloire.